Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Hello tout le monde, je suis très content de vous retrouver comme chaque semaine sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour le podcast Fun for you, votre rendez-vous dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Pénélope qui est avec moi en studio. Salut Pénélope.
Salut Simon.
Alors aujourd'hui, on va parler des TOC. Pénélope, c'est quoi les TOC?
Alors, les TOC, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des mouvements involontaires qui vont être associés à des obsessions et à des compulsions. Donc, on va avoir des individus qui vont être envahis au niveau de leurs pensées, hein, avec des pensées comme ça qui vont être récurrentes, hein, qui se répètent, qui vont être très angoissantes. Et puis, donc, ça, c'est ce qu'on va appeler les obsessions, hein, troubles obsessionnels compulsifs. Et donc, on va avoir ces obsessions qui vont être centré sur, par exemple, la propreté, l'ordre, la symétrie, la peur de faire une erreur, etc. Où il y a un sentiment excessif de responsabilité vis-à-vis de la sécurité d'autrui. C'est-à-dire que si je ne fais pas quelque chose, il va t'arriver un accident à toi. Tu vois.
Okay.
Et donc, pour pouvoir éviter, prévenir, réduire cette anxiété qui va être liée à ces obsessions, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des gestes ou des actes mentaux, hein, ça peut être aussi dans la tête, mais des gestes qui vont être les compulsions, hein, troubles obsessionnels compulsifs, ça c'est la dernière partie, avec par exemple des rituels de rangement, des rituels de lavage, hein, on va se laver les mains, je sais pas, 10 fois, 20 fois, 30 fois, des tocs de vérification aussi, hein, tu vas vérifier ou d'aligner des choses, enfin bon, ça peut, j'en reviendrai avec les différents types de tocs qu'il peut y avoir plus tard. Et donc ces compulsions, elles peuvent durer plusieurs heures chaque jour. Et donc ça devient évidemment un truc très handicapant.
Par exemple, vérifier avant de sortir de la maison plusieurs fois qu'on a fermé toutes les portes et ce genre de choses.
Exactement.
On peut perdre beaucoup de temps à le faire finalement.
Énormément. Donc parce que ça peut arriver, hein, je sais pas, moi je vérifie toujours, je sais pas, je sors de ma voiture, parfois j'oublie que je l'ai fermée, je revérifie. Ici, c'est des gens qui vont le vérifier 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Ça peut prendre des proportions énormes. Les personnes qui souffrent de TOC, elles sont bien conscientes que l'obsession, elle vient de leur activité mentale. Elles savent que c'est pas vraiment censé, mais elles savent pas s'en empêcher. Et donc on est vraiment face à une maladie qui va handicaper le quotidien de manière extrêmement intense. Alors au début, en général, il y a des petits TOC, enfin il y a des petits TOC, des TOC de manière assez condensée.
Ouais.
Et si ça n'est pas soigné, en fait, ça va prendre de plus en plus de place. Et donc jusqu'à avoir un moment le risque de ne plus pouvoir avoir une vie sociale ou une vie professionnelle qui va être normale. Parce que forcément, si par exemple tu dois arriver à l'heure le matin, mais que t'as passé à ton boulot, que t'as passé, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, une heure,
à vérifier
une heure et demie,
que tout était prêt, que t'avais rien oublié, que t'avais bien fermé tout.
À un moment, tu risques d'arriver en retard.
Ok, ouais.
Alors, une fois, deux fois, trois fois, à un moment, le patron, il va pas être d'accord, donc ça va vraiment provoquer des dégâts pour ces personnes. On sait aussi que la moitié des personnes qui sont atteintes de TOC souffrent en général d'une autre maladie psychiatrique. Alors en général, on va avoir tout ce qui va être troubles de l'humeur, les troubles anxieux, on va avoir les troubles des conduites alimentaires par exemple. On peut avoir des TIC, hein, on n'a pas encore fait la différence entre le TIC et le TOC.
Parce que c'est deux choses différentes. Hein.
Exactement. Donc le TIC, ça va être des petits mouvements involontaires, alors que le TOC, il y a vraiment le but, c'est de poser l'acte soi-même, en tout cas on décide de le poser. Et alors évidemment, ça c'est quelque chose qui se retrouve très fort dans beaucoup de pathologies psychiatriques, de l'abus ou de la dépendance à l'alcool, à des médicaments ou à des drogues. Et donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, qu'on va retrouver beaucoup plus que dans la population générale.
Est-ce que c'est courant de rencontrer des personnes qui ont des TOC?
Alors oui, c'est quand même quelque chose qui est très élevé dans la population générale. Hein. Pour te donner une idée, on est entre 2 à 3 %. Et donc, on pourrait considérer que c'est dans les premières maladies psychiatriques les plus fréquentes. Alors, on a les phobies, les addictions, les troubles dépressifs. Mais voilà, on est dans la même catégorie que ces trois-là. Alors, on sait que les symptômes apparaissent le plus souvent dans l'enfance, voire début de l'âge adulte. On a environ 25 % des cas de TOC qui débutent avant 14 ans, 65 avant 25 ans, et puis 15 % après 35 ans. Donc la majorité, en tout cas, vont être développés avant 25 ans. Alors on n'a pas de, enfin il y a pas de préférence homme-femme, si je peux dire. Donc les femmes sont autant touchées que les hommes. Par contre, on va trouver que les troubles sont plus précoces en général chez les hommes que chez les femmes.
Okay.
Donc ça va apparaître plutôt chez les garçons. Et puis, on sait aussi que quand ça apparaît plus tôt, en général, on est face à une plus grande sévérité, une plus grande résistance au traitement et alors des symptômes qui vont être sur un éventail beaucoup plus large. Donc plus ça arrive tôt, moins c'est bon, on va dire ça comme ça. En général, on a quand même l'idée que la continuité du trou va se faire entre l'enfance et l'âge adulte. Et donc que 30 à 50% des patients adultes qui ont un TOC l'ont été finalement pendant l'enfance déjà.
Ok, d'accord. Ouais.
Au niveau des enfants, on a aussi des thématiques qui sont similaires à ceux des adultes. Hein. Donc ils peuvent par exemple insister pour que leur linge soit lavé plusieurs fois, ils peuvent répéter leur travail plusieurs fois, ils peuvent vérifier leur cartable aussi plusieurs fois, se mettre en colère par rapport à du désordre par exemple. On a chez les adultes, en général, on va assez vite reconnaître ça comme quelque chose de maladif, d'intrusif ou d'anormal, hein, tous ces rituels. Mais chez les enfants, on n'arrive pas tellement à identifier ça, à parler de leur TOC. Et donc, en général, ça va se manifester beaucoup plus sous la forme d'une agitation, d'une agressivité ou d'un repli sur soi, des difficultés scolaires. On ne va pas tellement l'associer au TOC, en fait. On va l'associer à quelque chose d'autre.
Ça me fait penser que quand j'étais étudiant, que j'étais en primaire, j'avais un camarade de classe tous les jours. La première chose qu'il faisait, c'était vider son plumier. Et il alignait sur son banc tous ses crayons, etc. Et c'était vraiment quelque chose qu'il faisait tout le temps. Et je me souviens qu'il allait même plus loin, quand c'était le jour des frites, je m'en souviens très bien, qu'il fallait amener de l'argent pour payer la frite. Il empilait toutes les petites pièces que ses parents lui avaient données sur son banc également, mais c'était vraiment empilé, quoi. Et par ordre, de la petite à la plus grosse. Et c'est quelque chose qu'il faisait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand j'allais chez lui, parce que j'étais souvent invité chez lui, c'est quelque chose qu'il faisait aussi avec ses jouets, ce genre de trucs. Tout était toujours très, très, très aligné.
Tout à fait. Bah là, on est dedans, quoi. Clairement, c'est vraiment, vraiment toute cette systématisation chose. Et je sais pas si un jour tu as essayé de lui prendre un de ses marqueurs qui était rangé.
Alors, Pénélope, je ne suis plus tout jeune, je me rappelle pas de tout ça, mais certainement que ça a dû arriver une fois ou l'autre.
C'est quelque chose qui peut vraiment mettre l'autre en difficulté, en grande difficulté, parce que tu viens faire intrusion dans cet espace de rangement qui permet de gérer l'angoisse. Donc, il faut bien se rappeler que ça contient quelque chose de « si je ne le fais pas, les autres vont mourir ». Alors, j'exagère un peu. Non, pas vraiment. C'est de cet ordre-là. Il va arriver un accident, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et donc, la responsabilité de ce qui va se passer est posée sur les épaules.
Est-ce que dans ce cas-là, il était conscient qu'il ne pouvait rien nous arriver si ses crayons n'étaient pas rangés? Ou est-ce qu'il conscientise le fait qu'il n'y ait pas vraiment de danger s'il n'y arrive pas?
Alors, bon, je ne sais pas quel âge il avait.
On doit avoir 8 ans, je dirais.
Ça, c'est fort jeune. Mais a priori, quelqu'un qui a des TOC, il est capable de se rendre compte que non, normalement, il ne devrait rien arriver. Mais c'est plus fort qu'eux. Et donc, à un moment ou à un autre, ils vont quand même le faire. Sinon, l'angoisse est tellement importante qu'elle n'est pas supportable.
Et est-ce qu'il peut, par exemple, y avoir des origines familiales au TOC?
Alors, effectivement, il y a eu des études qui ont été réalisées sur des familles où il y a des TOC. Et donc, il y a clairement une influence de facteurs génétiques qui a été démontrée, même si on ne sait pas encore bien définir le rôle. Alors, on estime que on a une héritabilité entre 27 et 49%, et on peut avoir même des chiffres qui montent jusqu'à 65% quand les symptômes arrivent pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Alors, il y aurait des gènes impliqués, mais donc il y aurait des données, en tout cas génétiques, qui seraient liées à ça.
Et concrètement, comment ça se passe pour poser le diagnostic autour des TOC?
Comme souvent dans les maladies psychiatriques, ça se diagnostique pas sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Hein, c'est important d'aller vers quelqu'un qui est spécialisé. Donc, on peut avoir soit un psychiatre, un psychologue, éventuellement un médecin généraliste. Donc il y a vraiment des critères bien définis et bien spécifiques, entre autres qui se retrouvent, tu sais, dans ma...
Le DSM-5.
Exactement.
Ou le 7, on est au 7,
non,
on est au 5.
Non, le 5, pas trop vite, pas trop vite. Alors il y a d'autres échelles qui existent pour pouvoir mesurer un petit peu la sévérité du trouble, par exemple. Donc voilà, quand on pense qu'il y a ce trouble-là, on peut aller un peu plus loin, évidemment. Alors l'idée, c'est de mesurer justement la durée que tu vas avoir dans la vie quotidienne qui va être consacrée à ces obsessions et à ces compulsions, la gêne, l'anxiété que ça va perturber. Donc tout ça va être étudié dans ces échelles et va permettre vraiment de comprendre où en est la personne dans son trouble.
Et une fois que le diagnostic a été fait, c'est quoi les traitements qu'on peut mettre en place pour justement arriver à se libérer de tous ces TOC?
Alors, il faut vraiment voir le TOC comme quelque chose qui est chronique, hein. Donc ça ne va pas se guérir tout seul, ça c'est clair, et donc ça doit être pris en charge aussi par des professionnels. Donc diagnostiqué par des professionnels et puis traité par des professionnels. Alors, il y a des traitements, en général les traitements, ils sont là pour réduire les symptômes. L'idée, c'est que la personne puisse retrouver la vie la plus normale possible. En général, ça améliore le quotidien chez plus ou moins 2/3 des patients. Et on va avoir 20% qui va être en rémission plusieurs années après le début de la prise en charge. Alors, deux traitements qui sont vraiment importants dans le cadre des TOC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, c'est celle qui est la plus utilisée. Donc là, on va agir sur les comportements. Donc, par exemple, je vais le faire un peu grossièrement, mais si tu as besoin d'éteindre 10 fois la lampe quand tu sors de chez toi, on va travailler sur le fait d'abord de l'éteindre et l'allumer 8 fois, 6 fois, etc.
On va y aller un peu décrescendo.
Exactement. Et puis il y a certains médicaments qu'on va utiliser aussi, qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc voilà, je ne veux pas rentrer non plus dans des détails. Donc ça, ce sont des doses qui vont donner de manière, en gros, c'est utilisé plutôt dans le cadre dépressif, et on va l'utiliser à des doses beaucoup plus élevées. Maintenant, ça marche pas toujours. Il faut du temps pour que ça se mette en place. Et finalement, en général, c'est quelque chose qu'on poursuit même après la disparition des symptômes. C'est toujours quelque chose aussi qu'on combine. Faire tout seul les médicaments, en général, ça marche pas. Et donc, c'est vraiment important de penser à la thérapie derrière, qui va vraiment avoir une action sur les comportements problématiques, sur les pensées qu'on va avoir, sur les émotions qu'on va ressentir. Il y a un chouette documentaire sur Arte, donc ils ont toute une série qui s'appelle Psycho, Moi, alors il y a Dépressif, etc. Et il y a Moi et mes compulsions, si jamais vous voulez aller voir, où les psychologues vont même aller dans la confrontation progressive de situations, même en extérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui doit être pris de manière globale.
Alors on en parlait un peu tout à l'heure, il existe différents types de TOC. Est-ce qu'on peut peut-être aller plus en profondeur sur ces types de TOC, Pénélope ?
Bien sûr, pour toi je ferai tout. Alors effectivement, chaque TOC va être associé à des préoccupations, des comportements qui sont spécifiques. Donc on a par exemple le TOC de vérification. Donc dans ce cas-là, en général, on est face à des individus qui ont très peur de commettre des erreurs graves, donc d'avoir laissé une porte déverrouillée, et donc ils vont être obligés de vérifier en permanence la porte, voir si elle est bien fermée, pour apaiser l'anxiété. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui va se poser sur plein de choses dans le quotidien. J'ai une patiente, par exemple, chaque fois qu'elle a peur du gaz, par exemple, tu vois, au niveau de la cuisinière, donc c'est vérifié 10 000 fois que la cuisinière est éteinte. Alors, il y a aussi tout ce qui est TOC de contamination, hein, donc là, c'est la crainte vraiment obsessionnelle d'être contaminé par des germes, par des substances nocives. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Du nettoyage excessif, hein. Alors ça peut être les mains, mais ça peut être aussi l'environnement. Donc, de passer l'aspirateur 10 fois par jour, par exemple.
Pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie.
Exactement. Il y a les TOC de symétrie ou les TOC d'ordre. Et donc là, l'obsession, ça va être que tout doit être bien arrangé de manière extrêmement symétrique. Alors, tu parlais tout à l'heure de ton copain de classe. Hein, là, il rangeait tous ses crayons de couleur. Je parie même qu'il les rangeait par couleur.
Et c'est fort possible.
Oui, certainement. Donc, ça doit être à la fois symétrique, ordonné. Et donc là,
chaque chose a sa place en fait dans la maison. Exactement. Et on peut pas déplacer les trucs.
Non, on ne peut pas. Et donc ça peut prendre des heures aussi à organiser, à réorganiser, à réaligner des objets. Comme ton ami qui, sans doute, dès qu'il y avait quelqu'un qui il donnait un coup dans son banc, il fallait réorganiser systématiquement l'ordre. Alors il y a aussi les TOC de comptage. Et donc, le fait de devoir compter tous les objets pour pouvoir se sentir en sécurité. Donc, par exemple, compter les marches qu'on monte systématiquement. Ça me fait aussi penser, je sais pas s'il y avait un film qui s'appelait Pour le pire et pour le meilleur avec Jack Nicholson, où lui, il a des TOC fond de balle. Allez le voir, c'est un vieux film, mais il est quand même plutôt sympa. Ou par exemple, il peut pas marcher sur des lignes aussi.
Ah ouais.
Tu vois, quand tu marches sur des carrelages, il faut faire attention de pas marcher sur les lignes, etc. Alors, Alors, il y a aussi le TOC des pensées intrusives. Donc, c'est le fait d'avoir des pensées qu'on trouve immorales ou inappropriées. Donc, par exemple, avoir envie de frapper tout le monde, alors que, en fait, on est dégoûté par l'idée de le faire. Donc, ça aussi, ça fait partie des TOC. On a les TOC de collection ou d'accumulation. Hein, donc, le fait de ne pas pouvoir se débarrasser d'objets qui sont inutiles ou sans valeur.
Ça rejoint un peu le syndrome de Diogène, ça, finalement.
Alors, ça peut rejoindre ce genre de choses, effectivement, parce qu'alors, on a des accumulations énormes, hein, mais bon, qui deviennent aussi très problématiques. Donc, voilà, ça, c'est, je dirais, il y en a d'autres, hein, mais c'est les principaux TOC qu'on va pouvoir retrouver.
Comment on pourrait conclure, finalement, ce sujet sur les TOC, Pénélope ?
Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quand même une pathologie psychiatrique qui est très fréquente, qui est chronique, hein, qui est très invalidante pour les personnes. Donc, avec ce côté obsession, compulsion, des choses qui sont répétitives et qui génèrent à la fois de l'anxiété intense et qu'on essaye de réguler par le biais des TOC. Donc, on est souvent dans une conscience qui est quand même partielle, hein, ou totale de ce caractère qui n'a pas de sens, de ses pensées, de ses comportements. Il y a vraiment une prise de conscience de ça. On est face à de la souffrance aussi de manière très importante et un impact au niveau fonctionnel qui peuvent être très importants au niveau de la vie privée, de la vie sociale, de la vie professionnelle. Et donc, sur le plan thérapeutique, quand même, on a beaucoup d'avancées, hein, qui ont permis des prises en charge vraiment intéressantes. Hein, donc, je disais, par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale, entre autres, avec l'exposition. Et donc, cette association avec éventuellement un traitement médicamenteux, ça a vraiment permis à des patients d'avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus importante qu'on pouvait l'avoir avant. Et donc, c'est quand même important de les repérer de manière extrêmement précoce. Pourquoi ? Parce que plus on va lutter au départ de la maladie contre cette banalisation, en tout cas des symptômes, hein, les petites manies, comme on pourrait dire.
Mais parce qu'on s'en rend pas compte directement, au final.
Alors, moi, je pense qu'on s'en rend un peu compte, mais qu'on minimise le côté, bah non, c'est pas grave, c'est normal d'avoir envie que ce soit symétrique, si à un moment tu sais pas te passer de la symétrie, c'est quand même un peu embêtant. Et donc, le fait de le prendre de manière beaucoup plus précoce va avoir évidemment des effets beaucoup plus intéressants par la suite. Et puis, je pense qu'on a aujourd'hui une meilleure connaissance aussi de ce trouble chez les soignants de manière générale. Et donc, forcément, ça améliore assez bien l'orientation, la qualité des soins qu'on peut avoir pour ses patients.
Merci en tout cas Pénélope d'être venue une nouvelle fois dans cette émission, malgré ton rhume, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Pénélope parle un petit peu du nez aujourd'hui. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent, merci d'avoir été là.
Mais c'était avec plaisir,
à très vite.
À très vite Simon.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.